Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'épineuse question des adoptions internationales illégales. En fait, depuis plus de 50 ans, des bébés nés dans des pays pauvres sont adoptés par des parents de pays développés, dans des conditions aujourd'hui de plus en plus dénoncées par les adoptés devenus adultes et qui parfois n'hésitent pas à porter plainte ou à pointer du doigt la responsabilité, notamment des pays d'accueil, notamment de l'État français. Plusieurs pays européens mènent des enquêtes officielles pour connaître l'ampleur de ces trafics, établir aussi des responsabilités à tous les niveaux, voire des réparations peut-être. Le gouvernement français a lancé le 8 novembre dernier une mission d'inspection sur ces pratiques illicites. Les Nations Unies se mobilisent également pour permettre de classer certaines affaires de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, les chiffres de l'adoption internationale sont en chute libre depuis presque 20 ans, mais le passé demeure et la recherche de la vérité est complexe. Nous allons en discuter avec Emmanuel Hébert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans le studio de RFI. Vous êtes fondatrice de l'association RAIF, ça veut dire Réseau des adoptés à l'international en France. Une association qui vise à faire reconnaître le droit des personnes adoptées et surtout à faire la lumière sur ces adoptions illégales. Également avec nous, Véronique Piazer-Moyen. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous êtes une mère adoptive. Votre fille a été adoptée au Sri Lanka en 1985. Votre famille s'est retrouvée au cœur d'un véritable trafic de bébés. Et vous racontez cette blessure pour elle, pour vous aussi en tant que mère. Le livre s'appelle « Ma fille, je ne savais pas » quand l'adoption internationale tourne au trafic d'enfants. Et c'est publié aux éditions City. Vous êtes à Toulouse en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Occitanie. Nous sommes également en ligne avec l'historien Yves Denecher, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes à l'Université d'Angers, spécialiste de l'histoire de l'adoption internationale. Nous serons aussi en ligne en deuxième partie d'émission avec notre correspondant Nicolas Roca en Corée. La Corée du Sud qui est le pays qui a envoyé le plus d'enfants à l'adoption, environ 200 000 depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Et dans ce pays qui est devenu riche, eh bien les autorités n'échappent pas aux critiques, aux accusations d'adoption illégale. Et d'ailleurs, un collectif s'est aussi organisé pour demander une enquête sur plusieurs dizaines de cas d'adoptés sur lesquels pèsent de forts soupçons de changement d'identité, de date de naissance et parfois d'adoption sans consentement parental. Je crois que vous le comprenez, les voisins et les voisines, à quel point ce dossier des adoptions illégales à l'international est complexe. On en discute avec nos invités.
8 milliards de voisins.
On se dit, on est nombreux, mais
c'est une grande famille.
Oui, la vraie famille.
Voilà, pour nous c'est ça. C'est une grande famille.
Véronique Piazer-Moyen, racontez-nous, certes brièvement, j'en suis désolée, mais le temps nous est compté dans cette émission. Dans quel contexte vous avez découvert que votre fille, adoptée au Sri Lanka, avait fait l'objet d'un trafic de bébés ?
Bien, nous l'avons découvert au moment où notre fille nous a demandé de retrouver ses origines. C'était assez légitime. Elle nous a dit « je voudrais retourner au Sri Lanka, essayer de retrouver ma famille biologique ». Et à ce moment-là, on a lancé des recherches assez rapidement avec des amis qu'on a sur place, parce que l'on connaît bien le Sri Lanka, pour y avoir un peu vécu. Et au bout de 15 jours, notre ami m'a rappelé et m'a dit « ben, c'est un baby business, c'est un trafic d'enfants ».
Votre fille donc a été volée à sa mère biologique qui était mineure à l'époque, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Elle a été volée à l'hôpital le jour de sa naissance.
Et ce qu'on vous a présenté à l'époque, en 1985, comme un orphelinat, c'était pas un orphelinat mais une baby farm. Expliquez-nous.
Alors les baby farms, c'est un terme qui est spécifique aux adoptions du Sri Lanka. Moi, je dis que c'est un endroit, pour vous expliquer, un endroit où étaient stockés les enfants et les mères. Ça n'avait rien d'un orphelinat. Et c'est dans ces endroits que se passaient les trafics. Donc le stockage d'enfants et de mères en vue de l'adoption, d'enfants qui étaient seuls aussi, dans le cas d'enfants volés, puisqu'ils mettaient à ce moment-là en place des mères de substitution. Et puis, sans doute, très vraisemblable, vraisemblablement, comme le dit la Suisse, des lieux de prostitution.
Comment était structuré ce trafic? Il y avait forcément plusieurs niveaux de complicité dans l'administration sri-lankaise, parce que vous, quand avec votre époux, vous avez quitté le sol sri-lankais avec votre fille toute bébé hein, dans son couffin, vous avez un dossier d'agrément administratif et judiciaire validé par les autorités françaises et sri-lankaises. Tout était en règle en fait.
Ah ben bien sûr, hein, dans la forme, tout est en règle. Mais après, oui, bien, il y a des complicités à un très haut niveau, hein, au niveau de l'État sri-lankais, puisqu'on dit que c'était un ministre qui était à la tête de ce trafic. Mais tout est en règle. Le problème, c'est l'enfant, c'est la provenance de l'enfant. Et ça, personne ne la connaît.
C'est un trafic, pour rester sur le cas du Sri Lanka, mais évidemment, ça concerne de très nombreux pays, qui a duré combien d'années ?
Alors, nous, on s'est penché sur les années 80, évidemment, hein, puisque notre fille est née en 85, mais il avait démarré bien avant, vraisemblablement avec la Suède, et il s'est poursuivi encore pendant deux décennies.
Qu'est-ce que vous reprochez aux autorités françaises ?
Ah ben, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir vérifié tous les documents. Par exemple, lorsque nous sommes allés à l'ambassade de France pour faire le visa d'entrée de notre fille sur le territoire français, on se dit qu'ils n'ont pas vérifié le dossier, puisque sur ce dossier, par exemple, le consentement de la mère n'est pas signé.
Le Sri Lanka, il y a eu à peu près 2500 enfants adoptés en France, hein, 14 000 en Europe. Est-ce que les autres pays européens ont fait preuve de plus d'attention au fil des années ?
Alors, je pense que dans les années 80, c'était exactement la même chose. Mais oui, il y a des enquêtes qui ont été faites dans d'autres pays, au Danemark, en Suisse, aux Pays-Bas. Et récemment, c'est-à-dire il y a un an et demi à peu près, la Suisse et les Pays-Bas ont conclu de leurs enquêtes qu'effectivement, il y avait eu du trafic. Et ils ont quand même présenté leurs excuses. Et pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que les intermédiaires qui sont mis en cause dans les rapports suisses et le rapport du Pays-Bas, ce sont les mêmes intermédiaires qui travaillaient pour la France. Quand notre intermédiaire, Madame Pereira, puisque moi je ne cache pas son nom, elle est mise en cause dans ces rapports. Donc, si elle était mafieuse pour la Suisse et pour les Pays-Bas, elle était forcément mafieuse pour la France.
Il faut rappeler qu'on est en 1985 quand vous adoptez cette petite fille. On est 10 ans avant l'arrivée d'Internet, hein, 20 ans avant sa généralisation massive. Je crois que c'est important parce que dans tout votre récit, dans votre livre, bien sûr, on sent cette immense douleur, mais surtout cette culpabilité, vous vous dites, est-ce qu'on n'a pas été naïf? C'est une culpabilité qui est partagée par tous les parents adoptants?
Je pense pas. Voilà, puisque vous me posez la question, je pense qu'on n'a pas tous, tous les parents adoptifs ne sont pas sur la même ligne que nous. On a à cœur de le dénoncer parce que je pense que les secrets de famille, ça ne fait avancer personne, ça ne fait du bien à personne. Mais oui, on peut dire que l'on était naïf. Moi, je pense que l'on était responsable. Il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Il n'y avait aucun moyen de vérifier. Le téléphone, rien que le téléphone, oui, c'était très compliqué. Et puis surtout, nous avons fait confiance.
Restez en ligne bien sûr avec nous, hein. Oui. Véronique Piazza-Moyen, vous intervenez quand vous le souhaitez. Emmanuel Hébert, votre association, dans quel contexte elle a été créée, votre association RAIF, le réseau des adoptés à l'international en France?
Alors, il faut qu'on revienne en février 2021. Justement, Véronique Piazer, que je salue au passage, expliquait que les Pays-Bas ont décidé de suspendre temporairement les adoptions à l'international. Et cette mesure faisait suite justement à un rapport qui avait été demandé quelques mois auparavant. Et suite à la publication de ce rapport, ils ont décidé de suspendre les adoptions internationales. Il faut savoir que la Suisse, deux mois avant, puisque c'était en décembre 2020, avait également présenté leurs excuses. Et on s'est dit, mais si les réseaux, comme dit Véronique, si les réseaux sont les mêmes que les pays d'accueil, seulement diffèrent, je pense qu'on a possibilité peut-être nous aussi. Que fait la France? Est-ce que la France ne pourrait pas porter aussi un regard de vérité sur ce qui s'est passé?
Ouais, alors, plusieurs pays d'accueil ont effectivement alors soit présenté des excuses, en tout cas lancé des enquêtes. Hein, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l'Irlande. Le gouvernement français vient de lancer en novembre dernier, donc c'est effectivement tout récent, une mission d'inspection sur les pratiques illicites. Yves Denecher, vous avez le sentiment que la France est clairement en retard aujourd'hui par rapport à d'autres pays européens pour vraiment, on va dire, déballer, essayer de comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces années?
Les deux interlocutrices ont déjà parlé un peu de l'inscription, si vous voulez, dans le temps de ces phénomènes. Et il est clair que depuis quelques années, il y a un certain nombre de pays d'accueil qui ont pris cette question en compte, de manière différente d'ailleurs, hein, parce qu'on parle globalement là, des Pays-Bas, de la Suisse, etc. Les manières, si vous voulez, d'aborder cette question étaient très, très spécifiques. La France vient de choisir une autre voie encore, c'est celle de la mission d'inspection. Il faut voir clairement ce qu'il va en sortir pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pour répondre directement à votre question, oui, il suffit de regarder les dates, mais on est finalement qu'à quelques mois d'écart entre les différents pays. Mais donc, en gros, c'est bien une prise de conscience générale qui a eu lieu dans les pays d'accueil depuis maintenant 3 ans.
Mais quelle est aujourd'hui l'ampleur des adoptions illégales à l'international si on regarde le phénomène depuis près de 50 ans?
Alors, il est important. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'on a parlé déjà dans cette émission du Sri Lanka, on aurait pu parler du Guatemala, etc., c'est-à-dire d'autres pays qui sont très visibles sur cette question. Et je parle des pays, mais évidemment, il faut compter tous les intermédiaires et tous les acteurs qui participent à ces adoptions. Et donc, les historiens, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est une histoire globale du phénomène, qui est très complexe, le plus complètement possible, en essayant de déterminer quelles sont les actions des uns et des autres, des parents adoptants jusqu'à l'État, en passant par les intermédiaires, qu'ils soient institués, je pense aux OAA, ou à des intermédiaires plus individuels. Et quand on regarde l'ensemble des sources à disposition, des enquêtes qui ont été menées, des témoignages, etc., il est évidemment possible de dire que beaucoup, beaucoup de pays concernés par l'adoption internationale ont connu des adoptions qu'on peut qualifier maintenant d'illégales, disons de pratiques illicites dans l'adoption. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut évidemment pas dire que toutes les adoptions internationales ont été vérolées de cette manière.
Comment savoir? Parce qu'on a le sentiment, quand on plonge dans cette documentation, que rétrospectivement, toutes ces adoptions internationales avaient un caractère plus ou moins prononcé d'illégalité. Ne serait-ce que beaucoup de familles ont dit « oui, on donnait de l'argent parce que c'était un orphelinat et qu'il y avait une dimension humanitaire aussi ». Alors, comment savoir jusqu'où va l'illégalité de ces adoptions?
Et c'est tout le problème, effectivement, de définir des critères et des définitions. En fait, on peut l'aborder de deux manières. On peut d'abord poser la question des normes, c'est-à-dire il y a 60 ans, ou 40 ans, ou même 20 ans, quelles sont les normes qui existaient dans les pays d'accueil, dans les pays d'origine et à l'international. On pense à la Convention de La Haye de 1993. Quelles étaient les normes qui existaient? Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, il y a un autre champ, c'est celui de la morale et de l'éthique. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien à un moment donné, dans un pays, qu'est-ce qu'une société est prête à accepter ou pas. Donc ça, c'est vraiment très important de poser la complexité de l'affaire. Et une fois qu'on a dit ça, qu'on avance sur ce champ-là, donc ça fait intervenir évidemment des définitions de droit, d'éthique, etc., eh bien après, on peut regarder concrètement ce qu'on peut trouver dans les sources, dans les témoignages, dans les enquêtes, et on peut établir une espèce de catégorisation, si vous voulez, j'allais dire catalogue, mais d'une multitude de déviances dans une énorme zone grise de l'adoption internationale qui va, vous venez d'en parler, simplement donner de l'argent pour faire accélérer une procédure, jusqu'au, de l'autre côté, ce qu'a dit Véronique Piazère Moyen, c'est-à-dire un vol d'enfant, c'est-à-dire un crime. Donc en gros, du petit détournement jusqu'au crime, en passant par de multiples délits, eh bien, on a toute une palette de pratiques illicites qui ont pu avoir lieu dans l'adoption internationale et qui s'explique par différents éléments, mais je m'arrête là pour l'instant.
Alors, je vais citer quelques pays, notamment qui concernent une partie de nos auditeurs. Il y a eu plusieurs scandales en Haïti, notamment après le tremblement de terre de janvier 2010, avec du trafic d'enfants. Au Mali également, avec le fameux scandale avec l'association Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger. En République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo. On le voit bien depuis 50 ans, néanmoins, les scandales se succèdent. Est-ce que vous avez le sentiment, Emmanuel Hébert, de l'association des personnes adoptées illégalement, qu'on aurait dû voir plus vite qu'il y a quand même eu des trous dans la raquette? Et d'ailleurs, quelle est, vous, votre histoire personnelle? Puisque toutes les personnes qui sont adhérentes à votre association ont bien une histoire personnelle à ce sujet.
Oui. Tout à fait. Pour ce qui est de répondre à la première question, dans un premier temps, je pense qu'on manquait de recul. Par exemple, ce qui s'est passé en Haïti, il a fallu un petit peu de temps quand même pour le voir. Ensuite, après, le deuxième point pour moi, c'est que malgré les alertes qui ont pu être lancées, malgré la médiatisation, ce qui se passe, c'est que... C'est mon ressenti. J'ai l'impression vraiment que les personnes ne sont pas prises en compte et que ce qui est énoncé n'est jamais... c'est-à-dire on dit oui, mais c'est un cas isolé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une minimisation de ce qui est dénoncé. Et donc, ça, c'est pour moi là, un vrai problème. Après, donc, pour...
Ça veut dire que vous semblez dire finalement que les pays d'accueil, hein, notamment en Europe, hein, puisque c'est essentiellement en Europe et puis l'Amérique du Nord, ne prennent pas en compte la dimension d'un système.
Voilà. Donc, c'est exactement... c'est un des points essentiels. C'est-à-dire que pour moi, pour les personnes qui sont adhérentes à l'association, et puis pour beaucoup de personnes adoptées et de parents, ce sont des dérives systémiques. On pourrait les qualifier comme ça, mais avant de pouvoir le définir, justement, c'est cette fameuse enquête que nous, qu'on réclamait, qui doit être menée pour qu'on puisse vraiment faire la lumière sur tout. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à chaque fois « oui, mais c'est un cas isolé », prenons les choses à bras le corps et prenons en considération les histoires de toutes ces personnes qui ont des choses à dire. Et surtout, je pense que les personnes adoptées, quand elles racontent leurs histoires, souvent, on minimise leurs paroles en disant « Ah, mais tu te souviens pas. Oh, mais c'est pas possible que tu te souviennes. » Ou alors, carrément, tu affabules ou tu fantasmes. Ou alors, tu es dans le déni.
Mais la médecine a progressé quand même dans les recherches sur le psychisme des enfants adoptés, leur difficulté aussi à s'enraciner dans la vie, à se projeter avec un destin individuel quand ils connaissent si mal leurs origines. La science a progressé là-dessus.
Alors, moi, je suis intimement persuadée que la France est aussi en retard.
Ah oui.
Mais bon, en effet, moi, je pense que, par exemple, les Américains ou les Canadiens avaient fait des travaux assez intéressants pour parler juste de Nancy Newton-Verrier. Qui avait fait deux ouvrages, il me semble, en tout cas très intéressants, justement sur comment, en fait, une personne adoptée peut se développer sans ses racines, sans savoir, et surtout en niant son passé. Et moi, je suis intimement persuadée aujourd'hui qu'une personne adoptée garde les stigmates, les traces dans ses cellules de ce qui s'est passé.
Quel que soit l'âge à laquelle cette personne a été adoptée. Hein.
Même in utero. C'est-à-dire que même in utero, on peut... Alors, certaines personnes vont penser que c'est peut-être un petit peu ésotérique, mais je suis persuadée que les personnes se souviennent. Voilà.
On n'est pas, évidemment, on ne fait pas du tout cette émission pour être dans la victimisation permanente.
Tout à fait.
Hein, mais, enfin, je crois que vous le disiez, bon, ça apparaît clairement, vous faites partie, vos histoires respectives font partie d'un système de dérives absolument terrifiantes, hein, où l'enfant est une marchandise, est un objet, un enjeu diplomatique aussi, on va y revenir avec Yves Denechère, historien, mais vous, votre histoire, sans vouloir la montrer comme, justement, parce que vous n'avez pas envie que ça soit juste une histoire particulière, mais racontez-la nous en quelques mots.
Alors, moi, j'ai été adoptée, je suis née en Inde, j'ai été adoptée en France, je suis arrivée en France en 77. Je suis la dernière d'une fratrie de 6 enfants. D'ailleurs, je salue mes frères et sœurs. Et du coup, tous mes frères et sœurs sont les enfants naturels de mes parents adoptifs. Et pendant longtemps, je n'ai vraiment pas considéré l'adoption comme un sujet. C'était un non-sujet dans notre famille. Mais par contre, quand même, gagnée par la curiosité, j'ai fini par demander mon dossier d'adoption à ma famille, qui m'a transmis un dossier. Et du coup, j'ai contacté l'OA, donc l'organisme autorisé pour l'adoption, pour leur demander mon dossier. Et ce dossier-là m'a été, on m'a fait comprendre que du coup, il n'y avait pas de dossier. Donc, je suis partie en Inde, la première fois en 2006. Et lors de ce voyage, comme sur mon dossier d'adoption, il était écrit que ma mère était décédée, que mon père avait pris la poudre d'escampette, mais qu'il avait refait sa vie. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux informations qui étaient étranges, parce que comment on peut savoir qu'on ne sait rien, mais qu'il a refait sa vie. Et que ma mère étant décédée peu de temps après ma naissance, c'est une de mes tantes qui m'a amenée à l'orphelinat. Je cherchais rien puisque ma mère était décédée et que mon père était inconnu. Je suis arrivée à l'orphelinat, on m'a dit donc on s'en surprise qu'il y avait rien.
Où ça, en Inde ?
À Calcutta. Mais par contre, étonnamment, juste le jour où je suis partie, on m'a dit. Une des sœurs m'a pris à part et m'a dit « Écoute, je sais que tu viens d'une famille importante. S'il te plaît, ne fais pas de recherche. Ne va pas foutre le bazar. C'est dangereux, entre guillemets. » On m'a fait comprendre que c'était peut-être dangereux, etc. Et en tout cas, qu'il ne fallait vraiment pas que je fasse de vagues. Donc, on m'a fait promettre de ne pas chercher. Donc, j'ai promis, un peu naïve, pour le coup. Et je suis rentrée en France. Et là, je me suis dit « Mais c'est complètement idiot. Pourquoi j'ai promis ?» Donc, je suis repartie en Inde. En 2008, donc un an et demi après, je suis repartie. Et là, je leur ai dit, en fait, vous m'avez dit une phrase qui était un peu étrange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ne cherche pas, tu viens d'une famille importante, si on ne sait rien de moi. Donc, du coup, vous me devez la vérité. Donc, soit vous m'aidez, soit vous ne m'aidez pas. Mais en tout cas, moi, je suis venue pour vous prévenir que je n'allais pas tenir ma promesse. Donc, je vais y aller, je suis déterminée. Et là, au bout d'une semaine, contre toute attente, on m'a dit, écoutez, bonne nouvelle, on a trouvé vos cousines, on a trouvé vos tantes. Elles sont en vie, elles vivent à Calcutta. Et puis, bonne nouvelle, on a trouvé votre mère, elle est en vie, elle vit à Calcutta. OK. Donc là, ça a été un peu étrange, dans le sens où on m'a dit, si tu te comportes bien, tu rencontreras tes cousines dans un premier temps. Enfin, en tout cas, tu vas rencontrer tes cousines ce soir. Si tu te comportes bien, tu rencontreras tes tantes. Et si on voit que tu ne fais pas de problème, on te présentera ta mère.
Comment vous avez su que vous aviez fait l'objet d'un trafic ?
Alors moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis issue d'un trafic. Je ne peux pas fermement définir que je suis issue d'un trafic. Par contre, je sais qu'il y a des choses qui ne sont clairement pas normales. Parce que le deuxième voyage... On m'a dit, du coup, on m'a trouvé cette famille. Mais en fait, au troisième voyage, on m'a dit tout ce qu'on t'a raconté, c'était faux.
Oui, la quête de la vérité pour les enfants adoptés, pas simple. L'adoption internationale est en chute libre depuis presque 20 ans. Mais comment reconsidérer le passé ? Comment protéger aussi les enfants qui sont encore adoptables ? Nous allons voir le cas de la Corée du Sud avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Roca. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Nous parlons des adoptions internationales illégales chez 8 milliards de voisins.
Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. Call up your priest, had to warn ya, wanting no peace when I
place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up. Time for surrender. I'm a vigilante. My love's defender. You're a wanted man. And everybody knows. Yeah. You better call the police. Call the coroner.
Who did that to you? C'est John Legend. Nous écoutons RFI, 8 milliards de voisins. Et nous parlons des adoptions internationales illégales. Bien sûr, ça concerne des pays européens, l'Amérique du Nord, des pays riches qui pendant des dizaines d'années ont adopté des enfants dans des pays pauvres. Direction désormais la Corée du Sud. C'est le pays qui a envoyé le plus d'enfants à l'adoption, environ 200 000 depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Là-bas non plus, les autorités n'échappent pas aux critiques et aux accusations d'adoption illégale. Un collectif s'est organisé pour demander une enquête sur plusieurs dizaines de cas d'adoptés où pèsent des soupçons importants de changement d'identité, de date de naissance falsifiée, parfois d'adoption sans consentement parental. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, avec notamment un grand reportage qui a été diffusé sur RFI. Tout d'abord, comment est-ce que vous expliquez que ce pays, relativement petit, 50 millions d'habitants, détienne ce record mondial d'enfants envoyés à l'adoption ?
Alors c'est un ensemble de facteurs différents, mais disons qu'il s'est créé en fait en Corée du Sud un système qui a favorisé le départ d'enfants sud-coréens. D'ailleurs ce système a eu une grande influence sur l'adoption internationale à travers le monde. En fait vous l'avez dit, tout commence après la guerre de Corée, le pays est ravagé, les orphelins sont très nombreux. Mais le paradoxe c'est que l'adoption internationale se poursuit à très grande échelle pendant des décennies, alors que la Corée du Sud dans le même temps s'enrichit. Sous la dictature, les dirigeants ont laissé faire les agences d'adoption, certains ont même favorisé l'adoption internationale. Il semblait juger que c'était une solution pour résoudre le problème de la pauvreté infantile. Ensuite, dans cette société qui est assez conservatrice, les mères célibataires étaient très mal vues et elles étaient poussées à l'abandon de leurs enfants illégitimes. Et enfin, il faut souligner, j'en ai parlé brièvement, le rôle des agences d'adoption, mais surtout d'une en particulier, la Holt. Elle a été fondée par un couple d'Américains qui a en grande partie façonné le système de l'adoption internationale. Et j'ai encore pu consulter un dossier récemment qui montrait que certaines années, il y avait plus de 2000 enfants sud-coréens qui étaient envoyés à l'étranger par cette seule agence d'adoption.
Et sur quels éléments se basent les adoptés pour demander que soit lancée une enquête ?
Alors le premier élément, c'est que légalement en Corée du Sud, seuls les orphelins étaient éligibles à l'adoption. Vous imaginez bien, quand au milieu des années 1980, des centaines d'enfants quittaient le pays chaque mois, tous n'étaient pas orphelins. Ensuite, le pays ne se distingue pas uniquement par la quantité d'adoptés, mais aussi par le fait que les dossiers d'adoption étaient extrêmement complets. Donc il y a de nombreuses preuves des abus, des erreurs et des incohérences.
Et quels sont les différents cas que le groupe d'adoptés a déposé à la commission ?
Alors, c'est une initiative d'un collectif d'origine danoise qui s'est ensuite étendu à de nombreux pays européens, mais pas seulement. Alors, dans de nombreux cas, il y a des erreurs factuelles sur les dates, sur les prénoms, sur les noms. J'ai notamment rencontré une adoptée qui avait retrouvé des membres de sa famille biologique et son nom de famille avait été changé. Elle avait été rajeunie de 2 ans. D'autres dossiers concernent des violences physiques ou des erreurs médicales. On parle d'enfants qui étaient présentés comme en bonne santé dans leur dossier et les parents adoptifs ont découvert des cicatrices, des blessures ou encore des maladies à leur arrivée. Et enfin, il y a aussi des adoptés qui dénoncent des agressions sexuelles subies dans le cadre de la procédure d'adoption.
Mais quelles sont les issues possibles finalement ? Que demandent les adoptés concrètement ?
Alors pour l'instant, c'est la commission Vérité et Réconciliation, la commission indépendante qui est en charge de l'enquête et qui n'a accepté seulement quelques dizaines de dossiers sur les centaines déposés. Donc ces adoptés pourraient déposer d'autres dossiers, ils aimeraient que tous soient étudiés. Chez eux, il y a une volonté vraiment de faire la lumière tout d'abord sur un passé qui est très opaque, de reconnaître les abus, les erreurs de l'administration et les souffrances des adoptés. Enfin, l'autre objectif de cette initiative, c'est de garantir l'accès aux informations personnelles et à leurs dossiers pour les adoptés, pour contraindre les agences d'adoption à collaborer au nom du droit à connaître ses origines. Il y a un autre effet de cette initiative, c'est que cela a contribué ici à lever quelque peu le voile sur un tabou, sur un sujet qui est encore très tabou, très sensible ici en Corée du Sud. Il faut savoir tout de même que ce pays, qui est désormais la 10e puissance économique mondiale, continue d'avoir recours à d'adoption internationale. En 2021, selon le ministère de la Santé sud-coréen, 189 enfants ont été adoptés à l'étranger cette année-là. Ça représente 45,5% de toutes les adoptions dans le pays.
Ça peut sembler assez étonnant, en effet. Merci Nicolas Roca. On peut retrouver votre grand reportage qui a été diffusé sur RFI en août dernier. On met le lien sur la page des 8 milliards, hein, sur RFI.fr. Merci d'avoir été en direct avec nous de Séoul. Yves Denecher, historien spécialiste de l'adoption internationale. La Corée du Sud, ça reste tout de même un cas aujourd'hui assez surprenant.
Bah, disons que pendant de nombreuses années, la Corée du Sud a donné l'image un peu d'un pays modèle, si vous voulez. Hein, comme vient de le dire Nicolas Roca, il y avait des dossiers complets. Enfin bon, il y avait une procédure qui était établie, des normes. Et puis, il y avait surtout le HALT qui était, j'ai envie de dire, tout puissant, hein, et qui avait créé ce système. Et là, on voit bien, et c'est très intéressant, que, et je reviens toujours sur mon approche par la logique d'acteur, on voit bien comment les personnes adoptées, il y a des effets générationnels évidemment, devenues adultes, eh bien jouent un rôle fondamental finalement dans la recherche de la vérité. C'est souvent en lien avec la recherche des origines, on l'a bien vu avec Emmanuel Hébert tout à l'heure, et je pense que là il y a vraiment quelque chose de très important, c'est que dans toutes ces affaires, il faut évidemment respecter la parole des personnes concernées, des personnes adoptées, des personnes adoptantes aussi, bien sûr. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut s'attacher à démêler, si vous voulez, à dénouer les chevaux des actions des uns et des autres pour en arriver éventuellement à définir certaines responsabilités.
Responsabilités, voire réparation. Hein. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Un auditeur nous appelle de Franche-Comté en France. Bonjour Ravière.
Bonjour.
Vous nous avez appelé parce que vous et votre frère, vous êtes nés au Guatemala. Et vous avez été victime d'un enlèvement, vous avez déposé une plainte, vous avez été adopté en France.
Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est une affaire qui est assez dramatique dans le sens où, normalement, une adoption, pendant toute notre vie, nous avons grandi sous l'idée qu'on avait été adopté, donc abandonné par notre mère. Mmh. Et c'est en réalité, en 2019, que mon frère et moi, nous découvrons que notre mère ne nous a jamais abandonnés. Et par une enquête qui a été menée justement par Angélique Montoya et qui a permis de récupérer pas mal de documents, nous pouvons maintenant en réalité connaître la vérité sur notre fausse adoption, qui est un enlèvement. Donc on a proposé à ma mère au Guatemala de nous soigner et de nous envoyer aux États-Unis dans un hôpital parce que le Guatemala il n'avait pas soi-disant les moyens pour nous soigner. Donc on lui a demandé de signer des papiers pour nous permettre de sortir du pays. Mmh. Et en réalité, elle a signé des papiers qui nous ont amenés directement en France pour l'adoption. Donc on n'a jamais été soignés aux États-Unis.
Ouais. C'était, on a complètement menti à votre mère biologique.
Ouais. Donc moi, je suis arrivé en France en 81 via l'association Les Amis des Enfants du Monde. Et le faux orphelinat, parce que c'était de base un foyer de soins qui s'appelle Casa Canada, a permis finalement notre voyage complètement illégalement, parce que ça ne respectait pas la législation guatémaltèque sur l'adoption, même si à cette date-là, en fait, elle était très... très facilitante pour les personnes qui ont été adoptées.
Mais Ravière, vous portez plainte en France pour enlèvement. Vous portez plainte contre qui, en fait?
Alors là, c'est une plainte contre X, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes concernées. Et les personnes concernées sont...
Y compris l'administration française. Oui.
Ah ben, surtout l'administration française.
Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte?
Ben, en fait, la plainte, elle doit permettre justement de démontrer que le discours que c'est toujours la faute des pays d'origine qui a eu un jugement ou qui a eu des filières criminelles, en réalité, la filière criminelle, elle est en France. C'est l'administration qui n'a pas respecté les procédures et qui ont justement normalisé mon enlèvement en faisant un jugement d'adoption français, alors qu'au Guatemala, il n'y a pas de jugement d'adoption qui qui fait qu'aujourd'hui, j'ai deux identités, par exemple.
Ouais. Véronique Piazère-Moyen, vous publiez « Quand l'adoption internationale tourne au trafic d'enfants ». Votre livre s'intitule exactement « Ma fille, je ne savais pas », puisque votre fille a été adoptée au Sri Lanka en 1985. Hein, vous avez raconté votre histoire en première partie d'émission. Dans votre livre, vous précisez bien aussi que vous retrouvez des archives, notamment sur l'ambassade de France à l'époque à Colombo, au Sri Lanka, qui savait que les orphelinats, enfin ce qui était présenté comme des orphelinats et ces enfants sri-lankais qui partaient, qui quittaient le Sri Lanka pour aller vers plusieurs pays d'Europe, il y avait déjà un problème.
Ah ben oui. Ils avaient bien remarqué que l'activité principale de l'ambassade, c'était l'adoption d'enfants. Donc,
mais comment expliquer que l'administration fermait les yeux ? Est-ce que c'était parce qu'il y avait aussi une pression des parents candidats pour adopter ? Une pression des associations de parents ?
Ouais, enfin moi je pense que je peux pas vous dire pourquoi l'administration fermait les yeux, parce que c'est justement la question que je leur pose, pourquoi fermez-vous les yeux ? Et c'est aussi pour ça que nous avons déposé plainte.
Yves Denecher, est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus, historien, spécialiste de l'adoption internationale ?
Je reviens toujours à ma logique des acteurs, c'est-à-dire que oui, les adoptants et les candidats à l'adoption faisaient pression sur l'État, sur les institutions. Ça, c'est établi. Il suffit de regarder dans les archives les milliers et les milliers de lettres qui sont écrites par des maires, des parlementaires, des députés, des sénateurs, au ministère des Affaires sociales, etc., au nom de parents adoptants.
Qui disaient, on a le droit à l'adoption, on a le droit à l'enfant, finalement, alors que tant d'enfants vivaient dans une misère noire dans les pays d'origine.
Oui. C'est sûr qu'il y a une question, mais de la part des intermédiaires et des OAA aussi. Ils sont dans une logique d'action, dans un activisme aussi qui confond aussi humanitaire et protection de l'enfance, etc. Enfin, tout ça est aussi très complexe. Et pour revenir sur votre question sur les ambassades, etc., bah oui, le personnel diplomatique et consulaire français à l'étranger rédige régulièrement des télégrammes, des lettres pour indiquer bah, voilà ce qui se passe dans le pays. Oui. J'ai rencontré telle famille française qui me raconte que la presse locale fait état de tels éléments, etc.
Le fait qu'aujourd'hui les Nations Unies se mobilisent pour permettre de classer certaines affaires comme crimes contre l'humanité, est-ce que ça peut faire bouger les choses aujourd'hui, selon vous, Yves Denecher ?
Alors oui, c'est une date très importante, le 28 septembre. Le joint statement de certaines organisations liées à l'ONU est très important, parce que ce joint statement, cette déclaration commune, en fait, elle indique que les États ont une responsabilité pour lutter contre ces pratiques. Ils doivent les prohiber, ils doivent les reconnaître, ils doivent les réparer aussi.
Et qu'il n'y aurait plus de délai de prescription dans ce cas-là.
Alors là, moi, je ne suis pas juriste, donc je vais avoir du mal à rentrer dans ces considérations-là qui se font déjà débat, d'ailleurs.
On n'en est qu'au début, hein, de toute façon.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un texte qui est très important parce qu'il permet de fonder un certain nombre de démarches à partir de maintenant. Oui.
Emmanuel Hébert, que demande l'association que vous présidez au nom des personnes adoptées ?
Alors, nous, initialement, la demande, tout au début quand on a lancé le collectif, avant qu'on devienne une association, c'était cette fameuse enquête sur les adoptions illégales de 1960 à nos jours, et sur l'intégralité des pays concernés, à savoir à peu près 80, ce qui est une somme, enfin c'est colossal.
L'enquête, elle est en cours.
Voilà, donc alors...
En France.
On n'a pas encore le périmètre d'une part des pays concernés. Nous n'avons pas non plus la période concernée pour le moment. On essaye de glaner des informations à droite à gauche, mais on n'a encore pas d'informations à ce sujet-là.
Mais au-delà de l'enquête ?
Au-delà de l'enquête, nous, ça nous permettrait de pouvoir définir d'une part quelles sont les responsabilités de chacun. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça serait de faire en sorte que toutes les dérives soient pointées du doigt et qu'on puisse comprendre qui, comment, pourquoi, pour, si on souhaite vraiment assainir, rendre éthique l'adoption internationale, ça passe par ce travail préalable. Et ensuite, un point qui est vraiment essentiel, c'est la reconnaissance des adoptions illégales, parce que c'est pas une histoire de monnaie sonnante et trébuchante. C'est une histoire de reconnaître la souffrance de toutes ces personnes.
Vous souhaiteriez bénéficier d'un vrai statut de victime, finalement ?
Pour les personnes comme Ravière, tout à l'heure, qui a pris la parole, oui. Oui, c'est nécessaire, parce que retrouver sa famille, ou alors pour certaines personnes, quand c'est trop tard.
Et découvrir à l'âge adulte que sa mère ne vous a pas... Que sa propre mère ne vous a pas abandonné, oui. Hein, déjà, c'est quand même un vrai choc.
En fait, c'est une partie constitutive de ce qu'on on va devenir, de ce qu'on devient. Et dès lors qu'on nous ment, ou qu'on a bâti notre vie sur un mensonge, ce qu'on va transmettre à nos enfants, c'est du mensonge. Et du coup, je pense que c'est pour arrêter cette espèce d'hémorragie, si je peux me permettre, il faut faire la lumière entière sur tout ce qui s'est passé.
Oui. Allez-y, je souhaiterais intervenir. Je souhaiterais dire que si les Nations Unies se sont emparées de ce problème des adoptions illégales, c'est quand même parce qu'il y a eu une énorme mobilisation par une coalition qui s'appelle VAIA, qui est la coalition de 13 associations et collectifs. C'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble, et c'est grâce à ce mouvement qu'il y a eu une campagne de la société civile et que les Nations Unies ont mis le sujet en examen au sein des sessions. C'est comme ça qu'on l'a obtenu.
Évidemment, on peut se demander s'il y a vraiment des adoptions éthiques dans des pays pauvres, avec des administrations défaillantes et beaucoup de fonctionnement informels, finalement. En tout cas, l'adoption internationale aujourd'hui est en chute libre, Yves de Necher, depuis presque 20 ans. D'ailleurs, il y a très peu d'enfants qui sont adoptables à l'heure actuelle par des pays européens. Si on reprend les chiffres, on avait 45 000 enfants adoptés dans le monde en 2004. Il n'y en a plus que 6 500 en 2019. Probablement encore beaucoup moins aujourd'hui. On a du mal à avoir des chiffres depuis la pandémie. Est-ce que c'est une sombre page de la marchandisation de l'enfance qui est en train de se refermer, Yves de Necher, ou pas?
Oui, alors les premiers mots de votre question reviennent sur la définition ou peut-être la question en tout cas d'un caractère systémique finalement de ces pratiques illicites dans l'adoption internationale. C'est une vraie question, il faut la poser, il faut y regarder de près. Maintenant, il est clair que le phénomène de l'adoption internationale, vous l'avez dit, est en chute libre. En France, pour 2022, ça va peut-être être 250 enfants. C'est-à-dire qu'on est effectivement à ce qu'on peut appeler, en regardant les faits, la fin d'un phénomène qui a été en France un phénomène de société à partir des années 80, avec un maximum de plus de 4000 enfants qui arrivaient en France en 2005, par exemple. Bon, vous voyez, on est à 20 fois moins maintenant. Et donc, ça va donner, si vous voulez, aux études sur l'adoption internationale un caractère un peu nouveau, effectivement. J'ai envie de dire, les historiens peuvent entrer en scène maintenant, puisqu'il y a un peu plus de recul, il y a un peu plus de sources qui s'ouvrent, etc. Et nous, en tout cas, on s'y attache pour essayer de faire avancer la connaissance en s'appuyant sur aussi la mobilisation des personnes concernées. C'est très important. Quand je parle des acteurs de l'adoption internationale, depuis maintenant plus de 20 ans, mais surtout depuis quelques années, il y a un nouvel acteur qui est essentiel, ce sont les personnes adoptées, devenues adultes, qui veulent
et qui font entendre leur voix. On l'a entendu dans l'émission. Aujourd'hui, ceci dit, c'est pas parce qu'on assiste à la fin de l'adoption internationale qu'on assiste à la fin de la marchandisation de l'enfant, hélas, puisqu'il y a de très nombreuses adoptions totalement informelles. Je pense notamment à pas mal de pays sur le continent africain, et nos auditeurs sont bien placés, nous ont envoyé des messages à ce sujet. C'était pas le sujet de notre émission aujourd'hui, mais des enfants qui sont confiés, les fameux enfants confiés qui sont transformés en domestiques dans une autre famille d'accueil, et c'est le cas très souvent sur le continent subsaharien. Emmanuel Hébert, il nous reste vraiment 15 secondes.
Oui, en fait, je voulais juste dire que par rapport à ce que nous attendons, c'est vraiment que la création d'une instance dédiée, en fait, pour encadrer, soutenir toutes les personnes adoptées, et on réclame un vrai soutien, en fait, sur la recherche des origines pour les personnes adoptées, l'ouverture des archives, et on veut stopper cette monétisation. Parce que maintenant, la monétisation qui a fait l'objet de nos adoptions se transforme dans la monétisation de la RDO, ce qu'on appelle la recherche des origines. Et voilà. Et donc là, il faut que ça s'arrête. On veut
notamment
vraiment
avec le commerce de l'ADN, c'est ce que vous voulez dire.
Eh ben voilà, nous on réclame aussi que les tests ADN puissent être encadrés et sécurisés.
Merci en tout cas à vous tous, Emmanuelle Hébert, fondatrice de l'association RAIF, réseau des adoptés à l'international en France. Merci à vous, Véronique Piazer-Moyen. Vous avez publié Quand l'adoption, ma fille, je ne savais pas, quand l'adoption internationale tourne au trafic d'enfants aux éditions City. Et merci à vous pour votre éclairage, Yves Denecher, historien à l'université d'Angers. Merci aussi à notre auditeur qui nous a appelé en cours d'émission, Ravière, qui nous appelait de Franche-Comté. Merci à vous pour votre témoignage. Dans quelques instants, ce sera le journal. On se quitte avec Stromae, Papa Outé, chez 8 milliards de voisins.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler.
Merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
8 milliards de voisins, c'est fini.